le magazine des Nations Unies.
Plan d'action humanitaire 2015 en RDC et rapport 2014 sur la situation de droits de l'homme dans ce pays. Voilà deux faits marquants de la semaine qui s'achève. Alors il faut 692 millions de dollars pour aller au secours des 5,2 millions de personnes vulnérables en RDC en 2015. Ce sont là des prévisions du plan d'action humanitaire lancé jeudi dernier à Kinshasa. Autre chiffre, 2360 cas de violations de droits de l'homme enregistrés en 2014 contre 2600 cas en 2013. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a présenté ses bilans le mercredi dernier dans la capitale. Les détails, c'est tout à l'heure. Droits de l'homme toujours, José Maria Aranaz remplace Scott Campbell à la tête du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC. Le nouveau directeur est notre invité. Il parlera des défis à relever dans le domaine des droits humains en cette période cruciale où la RDC entame le processus électoral. Enfin, des villageois participent à l'amélioration de la nutrition et de l'alimentation de leur communauté, des femmes qui prennent de plus en plus la parole en public et des tabous alimentaires qui tombent. Ce sont là les retombées du Club d'écoute d'Imitra, une approche de la FAO pour réduire la pauvreté de la population rurale. Dans ce magazine, un éclairage sur l'impact de cette approche.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci de nous suivre à Kinshasa et partout dans le monde. Sachez que 2360 cas de violations enregistrées en 2014 sur le territoire de la RDC contre 2600 en 2013, c'est le rapport annuel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCUNDH, publié mercredi dernier à Kinshasa, ce qui représente une baisse par rapport à l'année 2013. Jean-Pierre Elali Ikoko revient sur les autres points saillants de ce rapport.
Les provinces les plus touchées par les violations des droits de l'homme sont celles de l'Est du pays, à savoir la province orientale, le Kivu et les Katanga, avec plus de 2370 cas. Le document pointe du doigt avant tout les agents étatiques, notamment les militaires des FRDC et les policiers, comme étant le principal responsable des violations des droits de l'homme. Viennent ensuite les combattants de groupes armés, toutes tendances confondues, avec 1004 violations des droits de l'homme. Ce n'est pas tout. Le rapport parle également des victimes, des femmes, des journalistes, des activistes de droits de l'homme, voire des opposants politiques. Abdelaziz Tchoyé, directeur adjoint au bureau conjoint.
En 2014, nous avons également documenté 364 victimes adultes de violences sexuelles dans les provinces affectées par le conflit, notamment la province orientale, où 184 femmes ont été victimes de violences sexuelles, la province du Nord Kivu, 122 femmes et 3 hommes, la province du Sud Kivu, 29 femmes, et la province du Katanga, 26 femmes. Toujours en 2014, 67 violations des droits de l'homme à l'encontre de 50 défenseurs des droits de l'homme, de 48 journalistes et de 44 opposants politiques ont été enregistrés par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire de la République.
En ce qui concerne le renforcement des capacités et la coopération technique, le Bureau conjoint dit avoir entrepris et exécuté 205 activités de formation et de renforcement des capacités, en partenariat bien entendu avec le ministère de la Justice et d'autres partenaires nationaux. Toujours en 2014, des missions d'enquête ont été menées.
Entre janvier et décembre 2014, nous avons coordonné et mis en œuvre 34 missions conjointes de protection dans les provinces orientales, Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, ainsi que 9 missions d'enquête conjointes en soutien à l'action des parquets militaires. Nous avons également, à travers le pays, conduit et mis en œuvre 106 missions d'enquête des droits de l'homme dans le cadre de notre mandat, spécialement dans les provinces affectées par le conflit.
Notons aussi qu'à cette occasion, le nouveau directeur du bureau conjoint et représentant du haut commissaire des droits de l'homme a été présenté à la presse. José Maria Aranaz remplace à ce poste M. Scott Campbell.
La deuxième actualité, comme nous l'avons dit dans le sommaire, le plan humanitaire 2015 pour la RDC prévoit 692 millions de dollars à mobiliser au cours de cette année pour une aide d'urgence à 5,2 millions de personnes vulnérables ciblées sur l'ensemble du pays. Le lancement de ces plans humanitaires a eu lieu jeudi dernier à Kinshasa. Monsieur Moustapha Soumaré, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur des actions humanitaires en RDC, arrivé fin mandat, a fait un regard rétrospectif pour parler des quelques actions concrètes réalisées dans le plan d'action humanitaire de l'année dernière. Le propos de Moustapha Soumaré, recueilli par Honoré Misenga Kalala.
50% des ménages identifiés dans les zones affectées par les violences et les conflits armés ont pu améliorer leur score de consommation alimentaire. Plus de 226 000 Congolais ont reçu une assistance en articles ménagers essentiels. Plus de 920 000 personnes, soit environ 43% de la population affectée par le conflit, ont réduit leur vulnérabilité en bénéficiant de manière adéquate d'un accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. 297 000 personnes malnutries ont été prises en charge. Et plus de 50 000 personnes ont pu bénéficier de soins de santé de base. 100% des réfugiés vivent dans un environnement respectueux de leurs droits. Et bien sûr, la logistique humanitaire a aussi contribué en transportant plus de 42 000 personnes et de 318 tonnes de carbone au cours de cette année. Et j'en passe.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Kinshasa a abrité du 2 au 6 février un atelier international sur le club d'écoute communautaire Dimitra de la FAO. C'est quoi un club d'écoute Dimitra? Quel est son impact social et économique? Madame Christiane est coordinatrice du projet Dimitra à la division de la protection sociale de la FAO au siège à Rome. Elle était parmi les animateurs de l'atelier de Kinshasa. C'est elle qui répond à ces questions et à bien d'autres dans cet entretien avec Honoré Misenga Kalala. Suivez plutôt.
Madame Christiane, monsieur, bonjour.
Bonjour.
Il s'est tenu à Kinshasa du 2 au 6 un atelier international des clubs d'écoute Dimitra. Qu'est-ce qu'un club Dimitra?
Excellente question. Un club Dimitra est un club composé d'hommes et de femmes qui se réunissent en décidant eux-mêmes des modalités de rencontre. Ils se réunissent régulièrement de sorte à discuter leurs problèmes, c'est-à-dire qu'ils choisissent, déterminent, identifient leurs problèmes et les discutent de sorte à trouver des solutions et surtout à agir ensemble.
Quels sont ces problèmes communautaires pour lesquels les gens devraient se réunir en club d'écoute Dimitra?
Alors les problèmes communautaires donc sont ceux qui sont identifiés par les communautés rurales, en général qui souffrent d'un isolement très prononcé, peu d'infrastructures, peu d'accès à l'eau, à l'éducation, peu d'accès aux intrants agricoles, peu d'accès en général à l'information, à la communication, et donc le besoin de trouver des solutions pour pallier à toutes ces difficultés et faire en sorte qu'ils ne soient plus isolés, qu'ils aient accès aux ressources productives pour pouvoir mieux produire, également pour améliorer donc leur bien-être et leurs conditions de vie.
Pourquoi Dimitra?
Alors Dimitra, d'abord, c'est le nom de la déesse grecque, donc de la mythologie grecque, une déesse de l'agriculture, des moissons, des récoltes, qui s'appelait Déméter. Et donc Dimitra, pour représenter l'importance du rôle des femmes rurales dans l'agriculture.
Est-ce qu'on peut connaître les caractéristiques principales des clubs Dimitra?
Les caractéristiques principales, on reconnaît souvent qu'elles sont au nombre de 7. Au centre de tout cela, on a le genre, donc les rapports entre hommes et femmes. Donc on tient spécialement à ce que les femmes ne soient pas discriminées, non seulement, mais qu'elles soient partie prenante de tout ce qui est développement. Car les clubs d'écoute ont ce but-là, de permettre aux populations rurales de prendre en main leur propre développement. Le genre est donc une de ces caractéristiques. L'autre caractéristique est la discussion, la participation qui mène vers l'action. C'est une autre caractéristique extrêmement importante. Il y en a d'autres encore, comme le partenariat, comme les rapports et les relations avec les radios communautaires rurales et bon, pour Okapi, c'est certainement également une caractéristique très importante. Il y a également tout l'appui qui est fourni par la FAO le projet et le programme Dimitra en particulier, justement, pour la mise en place de ces clubs d'écoute et l'accompagnement. Cet accompagnement de l'AFO consiste à permettre à des animateurs et animatrices au niveau local de donner un appui aux clubs d'écoute qui décident de se créer. Dans le cas qui nous occupe, les clubs d'écoute Dimitra sont nés en République démocratique du Congo et en milieu rural. Ils sont nés au Sud Kivu, d'abord, par le biais de l'organisation non gouvernementale Samwaki, une association qui s'occupe de femmes et qui a également sa propre radio, la radio Bouboussa. Les clubs d'écoute donc sont nés en République démocratique du Congo. Vous pouvez en être fiers, car cette méthodologie a été développée donc dans ce pays et elle est appliquée dans d'autres pays africains. C'est pour ça qu'ici, en ce moment, aujourd'hui à Kinshasa, nous avons réuni des gens qui viennent du Niger, du Sénégal, du Burundi, pays dans lesquels l'approche des clubs d'écoute est également mise en place avec grand succès.
Il y en a combien de clubs Dimitra en RDC ?
En RDC, il y en a environ 150. En province orientale, dans le district de la Tchopo en particulier, là il y en a pas loin de 80. Ils ont été mis en place dans le cadre d'un projet avec l'appui du gouvernement congolais par le biais du PRAPO, également par un don du FIDA à la FAO pour permettre ce projet. Tandis qu'au Katanga, il y a également des clubs d'écoute qui ont été créés il y a pas mal de temps. Là on va essayer de reprendre les activités également dans le Katanga pour les appuyer, et le Sud Kivu donc, qui poursuit également la création et l'appui à ces clubs.
Alors quels sont les objectifs de cette rencontre ici à Kinshasa?
Un objectif très important. Il faut savoir que partout où ils sont utilisés, les clubs d'écoute Dimitra de la FAO connaissent des résultats exceptionnels. Il semble qu'une telle approche de communication participative puisse réellement aider les communautés rurales à s'occuper de leur développement, à croire qu'eux aussi ils ont le potentiel, et ils ont le potentiel de le faire. Donc devant les grands succès qui sont obtenus avec des actions et des activités très précises des clubs d'écoute, parce que c'est eux qui décident ce qu'ils vont pouvoir faire avec leurs propres moyens, devant de tels succès, il était très important de réunir tous les gens qui ont participé de près ou de loin à la création des clubs d'écoute dans les différents pays pour étudier mieux ensemble la méthodologie et ensuite élaborer un guide des clubs Dimitra qui sera publié très prochainement.
Quels sont ces résultats ?
Oh, les résultats sont très nombreux et dans différentes sphères. Dans la sphère économique, avec des clubs d'écoute qui justement décident d'agir ensemble pour s'occuper de champs, la riziculture ou tout autre type de culture, de sorte à vendre leur production, donc une amélioration des conditions de vie et des conditions économiques. Mais c'est aussi tout ce qui concerne la prise de confiance des personnes et le rôle qu'ils peuvent jouer en termes de prise de décision. Donc les personnes des communautés, les habitants qui participent davantage aux décisions de leur propre communauté, avec les femmes rurales à qui on offre la parole, qui prennent la parole notamment, chose qui en général dans le milieu rural est plus difficile, que les femmes justement osent prendre la parole en public, mais également les tabous élémentaires. Vous savez qu'il est très important d'améliorer la nutrition et l'alimentation. Et grâce au club d'écoute, ces choses arrivent non seulement parce qu'on peut diversifier la production agricole grâce au club d'écoute qui choisissent eux-mêmes leur culture avec l'appui également des organisations paysannes, mais également, et ce qui est très important, des tabous alimentaires qui peuvent tomber. La tortue qu'on peut désormais manger, les œufs, certains poissons. Et donc ça fait quand même un apport important pour tout le monde. Et puis les relations hommes-femmes également, qui sont plus équitables. En tout cas, on va dans cette direction. On sait bien que ce n'est pas facile, que c'est un changement très important dans toute société, quelle qu'elle soit. Mais c'est incroyable de voir des chefs de village qui nettoient leurs concessions ou qui emmènent leurs enfants à l'école ou qui demandent à une femme de participer au conseil villageois. C'est extraordinaire de voir. Là, avec les clubs d'écoute, il y a vraiment un travail qui est fait pour améliorer la situation des femmes, le statut des femmes et l'égalité entre hommes et femmes.
Vous avez constaté qu'il n'y a plus de femmes ou autant de femmes que d'hommes dans les clubs Dimitra RDC?
Alors ça varie très fort. En RDC, en général, il y a un tout petit peu plus d'hommes dans les clubs d'écoute. En tout cas, en province orientale, c'est comme ça. Alors qu'au Sud Kivu, il y a un peu plus de femmes dans les clubs. Donc c'est très variable. Ça dépend un peu du travail de sensibilisation qu'on fait à l'origine. Et n'oubliez pas que les clubs d'écoute survivent et se créent et continuent à exister sans qu'ils ne reçoivent aucune aide financière d'aucune sorte. Tout ce qu'ils ont, c'est la radio solaire à manivelle que la FAO donc leur remet, et c'est tout. À part ça, c'est leur grande capacité, leur grand potentiel à développer.
Madame Christiane, monsieur, merci.
Je vous en prie.
Au moins un ménage sur cinq dans plusieurs zones rurales de la RDC a connu, au cours du dernier semestre 2014, un déficit complet en alimentation et autres besoins de base. Constat fait lors de la restitution mardi dernier à Kinshasa, des résultats du 12e cycle du cadre des classifications de la sécurité alimentaire. Les zones rurales frappées par ces déficits sont situées en Ituri, province orientale, à Boende, Équateur, à Punia, Maniema, Chabunda, Sud Kivu, Manono, Mitoa, et Pueto, Katanga. Les cycles du cadre des classifications de la sécurité alimentaire se réalisent tous les 6 mois depuis 2007 par le gouvernement avec l'appui de la FAO et du PAM. De l'alimentation à la santé, avec ce message de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer le 4 février, au moment où nous célébrons la journée mondiale contre le cancer, a déclaré le docteur Matshidiso Rebecca Moïti, la directrice de l'OMS, lance un appel au gouvernement de pays africains pour qu'ils généralisent l'accès des patients cancéreux aux vaccins destinés à la prévention du cancer au service des dépistages en vue d'une détection précoce des cancers et aux traitements et services de soins palliatifs. Fin de citation.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce dimanche, c'est José Maria Aranaz. Il est le nouveau directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et représentant du Haut Commissaire des droits de l'homme en RDC. Après sa prise de fonction, il donne ses priorités ainsi que les défis que son bureau entend relever en cette période cruciale du processus électoral en République démocratique du Congo. José Maria remplace à ce poste M. Scott Campbell. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur José Maria Aranaz, bonjour.
Bonjour.
Votre prédécesseur Scott Campbell a eu de démêlés avec les autorités congolaises et a été déclaré personne non grata à la suite de la publication d'un rapport sur l'opération Likofi ici à Kinshasa. Dans quel état d'esprit vous prenez vos fonctions après ce qui lui est arrivé?
Merci beaucoup pour cette opportunité de m'exprimer à la population et à l'audience de Radio Okapi. Nous sommes déjà en train de mettre en place un mécanisme de collaboration avec les autorités. Donc, il y a un cadre pour avoir les changements d'informations franchement et continuer le travail dans le cadre du mandat de la mission en matière de droits de l'homme et même aussi dans le cadre du mandat de le commissionnaire des droits de l'homme. On a eu des rencontres déjà et elles sont très franches et très ouvertes.
Dans quel état d'esprit, après ce qui est arrivé à M. Combe?
Dans un état ouvert et franche, et il y a le mandat et le travail qui doit être fait. Et on va travailler ensemble avec tous les partenaires de la communauté des droits de l'homme, ça veut dire les autorités, la société civile, la ONG et la population.
Vous n'avez pas peur pour connaître aussi la situation de votre prédécesseur qui a été déclaré personne non grata ici en République démocratique du Congo? Vous n'avez pas peur?
Je n'ai pas peur. C'est qu'il y a la confiance qu'on va trouver une façon de travailler ensemble avec tous les partenaires d'ici.
Et quelles sont vos grandes priorités dans l'exercice de vos fonctions ici à Kinshasa?
La première priorité, c'était d'établir le contact avec la communauté des droits de l'homme, que j'ai déjà nommée. Et après ça, les priorités programmatiques, ça seront les appuis à la lutte contre l'impunité, le renforcement des institutions, les droits des femmes et des enfants en conflit, et contribuer à préparer la sélection dans un climat APC et la protection des civils et des citoyens en conflit.
Oui, monsieur José Maria Aranaz, vous prenez vos fonctions à un moment crucial en République démocratique du Congo. D'un côté, il y a le processus électoral qui est enclenché et de l'autre, les violations des droits de l'homme qui ont émaillé en janvier dernier les manifestations ici à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. La Fédération internationale des droits de l'homme parle de 42 morts et 12 morts selon le gouvernement. Alors, quel rôle entend jouer votre bureau dans ce contexte vraiment particulier?
Tout à fait, la situation, c'est dans un moment critique. Il faut parler clairement avec les autorités. On a déjà commencé à parler de ce qui s'est passé la semaine passée. Nous avons notre enquête.
Donc, vous allez enquêter sur ces violations des droits de l'homme?
Oui, nous sommes documentés les cas de violations des droits de l'homme et nous sommes en train de partager ça avec les autorités. priorité. La priorité à ce moment, c'est que tous qui sont dans la détention à ce moment, ils sont mettre à disposition des autorités judiciaires. Il faut aussi voir qu'est-ce qui s'est passé avec le numéro de mort de quelqu'un et tout ça.
Vous avez dit que vous avez rencontré les autorités. Quelles sont ces autorités? C'est le ministre de la Justice?
Pas le ministre de la Justice à ce moment, le commissaire général de la police et quelques autorités de renseignement aussi.
Parlons maintenant de vous-même. Vous êtes juriste de formation et vous êtes aussi spécialiste en droit constitutionnel. Vous avez occupé de hautes fonctions en Afghanistan, au Soudan, en Irak, en Croatie, au Burkina Faso, Burundi et aussi au Rwanda. Parlez-nous brièvement de votre riche expérience en droit de l'homme dans ces pays où vous avez été travaillé.
La situation d'un pays à l'autre, c'est vraiment différent. Il y a des conflits qui sont différents. Il y a les besoins des droits de l'homme qui sont vraiment différents. Mais si je peux avoir une leçon bien apprise de tous les pays, c'était la population, c'est toujours là que c'est qu'ils souffrent. De l'autre côté, il faut avoir un cadre institutionnel pour protéger la population, les citoyens et les individus comme ça.
Les situations diffèrent d'un pays à l'autre. Prenons le cas du Rwanda. Quelle a été votre contribution dans ce pays qui a aussi des problèmes des droits de l'homme, il faut le dire.
J'étais là-bas, ça fait 20 ans, mais le travail plus important qu'on a fait à ce moment là-bas, c'était contribuer à la création d'un système de justice.
Et ça a été fait, vous avez créé ce système de justice ou bien vous avez aidé à débloquer certaines situations de violation des droits de l'homme?
On a appuyé l'établissement d'un système judiciaire et comme ça avoir un cadre pour le respect des droits de l'homme.
Comment vous allez utiliser votre riche expérience pour aider l'avancement des droits de l'homme en République démocratique du Congo?
On va donner le soutien aux autorités et aux citoyens pour de toute façon mettre appui l'établissement des institutions, les cadres légaux, les cadres institutionnels et la promotion, la reconnaissance des droits de l'homme tout à fait à ces moments très critiques. Donc nous sommes en train de préparer pour les élections.
Oui, et les élections, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour aider à l'organisation des élections d'une façon assez apaisée?
Ce que nous sommes en train de discuter, nous ne donnons pas l'appui technique à la préparation même des élections, mais les élections, ils sont un component des droits de l'homme très fort en matière de droits d'information, droits d'association, droits de réunion. Et nous sommes en train de discuter avec les autorités comment est-ce qu'on va faire pour avoir un climat apaisé pour les élections et en respect de tous ces droits.
Monsieur José, je vous remercie.
Merci beaucoup à vous.
L'UNICEF a un nouveau représentant en République démocratique du Congo. Il s'agit de Pascal Villeneuve. Lors d'un point de presse à Kinshasa, ce responsable a invité l'État congolais et ses partenaires à améliorer la situation des enfants en RDC. Écoutez Pascal Villeneuve au micro de Michel Kifindangoy.
Je pense qu'en termes de priorité, il y a trois choses. La première, il y a un certain nombre d'interventions à haut impact, comme par exemple la vaccination contre la rougeole, où l'on atteint des niveaux très élevés de couverture, aux alentours de 80%. Et donc le défi, c'est de faire en sorte qu'on couvre les 20% restants. Deuxième défi, il y a un certain nombre d'interventions à haut impact, l'exemple des moustiquaires imprégnés. On en est à l'heure actuelle aux alentours de 50%. Il faut donc maintenant aller couvrir les 50 derniers pourcents. Un autre défi, c'est le problème de la qualité. Si je prenais l'exemple de l'éducation primaire, 80% des enfants qui vont à l'école, c'est excellent, il en reste encore 20. Mais il y a le problème de la qualité de l'éducation, et donc là, c'est également un grand défi. Et puis, la malnutrition, très clairement, constitue une des priorités importantes pour l'UNICEF et aussi pour le gouvernement, pour d'autres partenaires aussi au Congo.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Le soulèvement d'anciens combattants mardi dernier à Kota Koli relance bien la question du processus DDR piloté par le gouvernement. Notre confrère Albert Omba a posé la question à Martin Combler mercredi dernier. Suivez la question et puis la réponse.
Albert Omban, America TV. Monsieur Kobler, le processus DDR est en panne au niveau de Guadeloupe. Vous avez suivi la presse que beaucoup d'éléments ex-Maïmaï qui sont cantonnés à Guadeloupe sont en mouvement parce qu'ils ne sont pas pris en compte. Est-ce que vous avez suivi leur évolution au niveau de Kota Koli?
C'est une chose qui nous préoccupe et je me suis déplacé moi-même à Kota Koli. Vous savez, alors c'est très loin, c'est très compliqué, on a fait le trip en motocycle même à Kota Koli. Et la situation que nous avons trouvée, c'était préoccupant. On a toujours demandé à l'ancien ministre de la Défense et des anciens combattants de fermer Kota Koli, de transférer les gens qui sont à Kota Koli, les ex-combattants de Niatoura, des autres, d'autres groupes, à Kamina ou dans les autres camps. Et c'est encore nécessaire. J'étais avec le ministre de France la semaine dernière. Il faut vraiment régler le problème, pas seulement les problèmes humanitaires dans le camp, mais avancer le processus de DDR. J'ai l'assurance du ministre de la Défense de le faire immédiatement. J'ai obtenu une lettre du ministre de la Défense hier qui a dit maintenant on a 1,5 million de dollars pour le plan national DDRRR. Il faut avancer le plan national DDRRR parce qu'il faut donner des perspectives aux ex-combattants de se réintégrer dans la société. Le problème est connu et c'est facile à résoudre. Mais il faut avoir, premièrement, la volonté politique de le faire. Deuxièmement, il faut avoir l'argent. Communauté internationale sont prêts d'avancer le financement pour le plan national DDR numéro 3. Il faut avoir des programmes de réinsertion. C'est pas seulement Kota Koli, c'est aussi à Kamina. On découvre maintenant au Kivu des gens qui ont été à Kamina aussi. Alors ça ne marche pas. Avancez le plan national DDR 3.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour les auditeurs de Radio Kapi à travers le monde. Je m'appelle Floribert Césarbo. Je suis marié et père de deux enfants. Jean-Luc Moulini, Jean-Marc Gonzana et ma femme s'appelle Winnie Ntofi. J'ai fait l'école primaire dans le territoire de Punia Maniema et l'école secondaire, l'institut pédagogique de Lemba ici à Kinshasa où j'ai obtenu mon diplôme d'état. Juste après, je suis allé à l'université de Kinshasa. Je suis licencié à la faculté des droits de l'université de Kinshasa au département des droits publics internationaux et relations internationales. Après cela, j'ai fait 3 ans à la faculté catholique de Kinshasa à l'école de foi et d'évangélisation où j'avais obtenu mon certificat. Je suis expert en droits de l'homme au bureau conjoint des droits de l'homme de la MONUSCO. Chaque matin quand j'arrive, j'entre en contact avec mon superviseur. Nous avons le plan quotidien ou hebdomadaire ou mensuel. Et c'est là que nous discutons avec les coordonnateurs pour qu'ils me donnent la tâche que je dois faire pendant la journée. Et comme expérience avant de venir à la MONUSCO, une année après mon diplôme de licence, j'ai été pris comme chef d'agence dans une petite entreprise de télécommunications et de fret. Et après cela, j'ai évolué dans une ONG des droits de l'homme qui s'appelle Ligue pour la paix et les droits de l'homme, en sigle LIPADO, où j'ai assumé la fonction de secrétaire général. Et je suis aussi responsable de la commission justice et paix et intégrité de la création au sein des laïcs missionnaires congolais de la République démocratique du Congo. Je suis aussi membre de Vivat International RDC. Je suis aussi avocat au baron de Kinshasa Matete. Je gère mon temps libre sur tous les samedis et dimanches. J'ai fait les marches à pied ou les sports. Où je regarde aussi la télé et surtout les informations et les documentaires. J'aime les films d'action, les films policiers. J'aime aussi vivre aussi en famille avec les enfants, me promener avec les enfants, ma femme aussi. J'aime beaucoup voyager. Comme nourriture préférée, c'est la patate douce, les pommes de terre et les haricots. Oui, j'aime les anciens succès de Luambo Makiadi, de Taboulé, surtout Sorozo. Et quand j'écoute la mélodie, je siffle. Mais sinon, ça me rappelle les bons temps quand on était petit, parce que mon papa aimait beaucoup plus Taboulé. Mon beau-père aimait aussi Taboulé. Il y a aussi Wemba que j'aimais, surtout les anciens succès de Wemba, j'aimais beaucoup. Perspective d'avenir, en tant que juriste et activiste des droits de l'homme pendant 11 ans, j'aurais souhaité mettre mon expérience aux Nations Unies et acquérir aussi des expériences aussi aux Nations Unies compte tenu de ce que j'ai déjà eu comme bagage. Je vous remercie.
magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Quelques rendez-vous de la semaine à noter dans votre agenda. Le 11 février, ce sera la journée mondiale de malades. Le 12 février, la journée internationale des enfants soldats. Le 13 février, la journée mondiale de la radio. Et en rapport avec cette journée, le magazine des Nations Unies se propose de s'entretenir avec un groupe d'élèves conduit par l'UNICEF au cœur de la rédaction Radio Capi. Merci à tous d'avoir suivi ce magazine présenté par Nadine Foulantimba. Dieudonné Nyangasa était à la technique. Honoré Missenga au reportage. Jean-Pierre Elali a coordonné et supervisé cette édition. Bon dimanche à tous.